Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. D'où viennent toutes ces croyances religieuses que nous découvrons dans le monde chrétien? Considérez-vous comme exact, vrai, tout ce qui vous a été inculqué par vos parents, vos grands-parents, peut-être une tante ou un oncle, des amis, ou encore ce que vous avez lu dans des livres religieux. Avez-vous vérifié dans la Bible si vos croyances sont bien exactes? Si le Christ revenait sur terre aujourd'hui, vers quelle dénomination chrétienne irait-il? Observerait-il le repos du dimanche ou celui du samedi fixé par le quatrième commandement? Observerait-il des fêtes comme les Pâques, l'Assomption, la Toussaint et la Noël? Il n'y a qu'une seule source pour découvrir la réponse à ces questions. Le Christ a affirmé « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifier, c'est mettre à part. Et la vérité met vraiment à part. Elle vous écarte de toutes les croyances erronées qui existent dans le monde. L'apôtre Paul a écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » L'apôtre Pierre a écrit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Partout dans sa parole, Dieu donne des indices qui révèlent la vérité. La Bible est comme un jeu de patience, composé d'éléments à assembler. Le prophète Ésaïe a écrit « C'est un peu ici, un peu là ». Tous les croyants estiment être dans la vérité. Lorsqu'on prouve à quelqu'un que ce qu'il croit est faux, il éprouve bien des difficultés à l'admettre. Cependant, admettre que l'on s'est trompé, que l'on ne vit pas en conformité avec l'enseignement biblique, c'est déjà un premier pas vers la vérité. Êtes-vous prêt à rejeter vos croyances si elles sont contraires aux Écritures? Ou préférez-vous vous accrocher à vos croyances coûte que coûte, même si elles ne sont que des mythes religieux, qui ne trouvent pas leur origine dans la parole de Dieu? La vérité a un prix, sa valeur est immense. Voilà pourquoi le roi Salomon a écrit « Acquiez la vérité et ne la vend pas. » Ne pas partager les croyances de notre entourage dérange les gens. Il faut du courage pour libérer son esprit de croyances qui, bien qu'elles soient populaires, bien qu'elles soient partagées par la grande majorité des gens, ne sont pourtant pas conformes à la vérité. Mais à quoi sert de s'accrocher à des mythes, à des légendes? Lorsque le moment de notre mort approchera, cette question prendra une importance soudaine. Mais ne vaut-elle pas la peine d'être examinée maintenant? La Bible s'oppose à bien des croyances du monde chrétien traditionnel. Ouvrez donc votre Bible, examinez-la en toute franchise, sans le moindre préjugé, et vous découvrirez qu'elle n'enseigne pas ce que vous pensez. Nous avons tous accepté une vérité, mais avez-vous bien vérifié cette vérité? Est-elle conforme ou différente de l'enseignement du Christ? Vous devez savoir que la Bible ne se contredit pas. S'il existe la moindre contradiction entre vos croyances et ce que la parole de Dieu révèle, alors sachez que l'erreur n'est pas dans ce que Dieu a inspiré, mais dans ce que les hommes affirment. Et nous en trouvons le plus bel exemple dans le sermon sur la montagne. Ce sermon, ce discours du Christ, contient le fondement du véritable christianisme. Il est le cœur, le résumé de l'enseignement du Christ. Si vous examinez avec un esprit ouvert les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu, vous constaterez que les doctrines du monde chrétien traditionnel diffèrent de l'enseignement simple, clair et direct de Jésus. Croyez-vous que les cieux sont la récompense des justes? Espérez-vous y aller après votre mort? Si c'est le cas, sur quoi basez-vous cette espérance? Sur ce que vous avez appris depuis votre enfance? Avez-vous jamais recherché une preuve biblique tangible de la légitimité de cet espoir auquel tant de gens s'accrochent jusqu'à leur dernier soupir? Savez-vous qu'il y a bien longtemps, un esprit puissant fut obsédé par l'idée de monter au ciel? Cet être appelé Satan dans la Bible a infusé dans l'esprit des gens le désir tenace d'y aller. Il est encore appelé le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Cependant, les premiers versets du sermon sur la montagne dissipent la croyance selon laquelle les cieux sont la récompense du chrétien. En effet, le Christ déclare « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Les débonnaires, ce sont les humbles, les doux, les complaisants, les indulgents. Jésus ne déclare nullement que les débonnaires iront au ciel. Il affirme au contraire qu'ils hériteront la terre. C'est ce que le roi David écrivit sous l'inspiration divine, et je cite maintenant la traduction du rabbinat français. « Car ceux que Dieu bénit posséderont la terre, et ceux qu'il maudit seront exterminés. Les justes posséderont la terre, et ils y habiteront pour toujours. » En réalité, Jésus n'a jamais promis les cieux comme récompense à ceux qui seront sauvés. L'apôtre Jean révèle à leur sujet « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ces gens régneront avec Christ sur terre et non au ciel. » Dans ce même sermon sur la montagne, nous découvrons un peu plus loin « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit sont, selon le texte original, ceux qui ont conscience de leur peu d'importance, qui sont humbles et qui possèdent la crainte de l'Éternel. Ces gens participeront au royaume des cieux, le royaume de Dieu que le Christ viendra établir sur terre à son retour, et non le royaume dans les cieux. Jésus a affirmé, « Je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Si les morts en Christ sont déjà près du Seigneur, pourquoi une résurrection? Si ces gens sont près du Seigneur, ils entendent déjà sa voix depuis des siècles pour certains. Près de 35 ans après la mort de Marie, l'apôtre Jean écrit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Près de 35 ans après la mort de Marie, l'apôtre Jean affirme que personne n'est monté au ciel à l'exception du Christ. Jean avait-il une croyance personnelle, ou est-ce ce que le Christ a enseigné à ses apôtres? Environ 40 ans après la mort du Christ, l'apôtre Pierre déclare au sujet de David, un homme selon le cœur de Dieu, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, car David n'est point monté au ciel. Ce qui vient à l'esprit de beaucoup de personnes qui entendent ce qui précède, c'est le passage où Jésus dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Dans ce passage, le mot « place » est traduit du grec « topos ». Il s'agit d'une condition, d'une position de responsabilité que le Christ donnera à ses élus dans le royaume. Quant au malfaiteur sur la croix, il avait demandé à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». La réponse fut « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Cette promesse n'est pas encore accomplie, Jésus n'étant pas encore venu dans son règne, et le paradis ne sera pas au ciel, mais sur la terre, là où il s'est déjà trouvé. Si vous voulez recevoir notre étude sur ces sujets, il vous suffit de la demander et elle vous sera expédiée gratuitement. Certains diront, l'homme a une âme, et c'est elle qui monte vers le Seigneur après la mort. Mais la Bible enseigne, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le roi Salomon a écrit, « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Tout, c'est tout. Ce n'est pas une partie. Tout est poussière, et tout retourne à la poussière. » Salomon ajoute, « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, autrement dit, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La vie et la mort sont deux antonymes. Un abîme les sépare, comme l'explique la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. L'apôtre Paul écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » D'un côté, nous trouvons la mort éternelle pour le pécheur non repentant, et de l'autre, la vie éternelle que Dieu accordera à ses élus lors de la résurrection. L'apôtre Paul a écrit « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Paul sait que celui qui meurt est sans vie. Il n'y a aucun espoir de vie jusqu'à la résurrection. Il n'y a rien d'immortel en l'homme dès sa naissance. Connaissez-vous le récit de la résurrection de Lazare? Cet homme était un ami de Jésus et des apôtres. Il décéda, et une odeur de putréfaction émanait déjà de sa dépouille, son décès datant de 4 jours. Si son âme était montée vers Dieu, comme le croient tant de gens, s'il était en présence de Dieu, jouissant de la paix du Seigneur et de la béatitude céleste, pourquoi aurait-ce été un acte de pitié de le ressusciter, de le ramener à la vie physique, de le faire redescendre dans cette vallée de larmes? Ce miracle de Jésus n'est donc pas conforme à la doctrine chrétienne traditionnelle, selon laquelle l'âme des chrétiens monte au ciel à leur mort. La Bible déclare « L'âme de toute chair, c'est son sang ». Jésus n'a jamais enseigné la doctrine de l'immortalité de l'âme. Au contraire, il déclara « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également ». Il affirma « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ». Vous ne trouverez nulle part dans la Bible l'expression « âme immortelle ». Dieu possède l'immortalité ainsi que les anges. Quant à l'homme, il peut recevoir cette immortalité sous certaines conditions. L'homme n'a pas une âme, il est une âme, et cette âme est mortelle. Mais l'homme n'aime pas admettre qu'il puisse cesser d'exister. Il s'accroche aux paroles de Satan qui déclara à Ève « Vous ne mourrez point ». Néanmoins, la Bible révèle que tous reviendront à la vie, absolument tous, mais en des temps différents. Certains pour la gloire éternelle, d'autres pour connaître enfin la vérité et obtenir la gloire éternelle s'ils se soumettent à Dieu, et d'autres pour la honte éternelle, la destruction finale pour avoir refusé, en toute connaissance de cause, de se soumettre à la volonté de Dieu. Paul écrit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, chacun en son temps. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Les irréductibles, ceux qui refuseront de se soumettre à Dieu, seront détruits définitivement. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Là, ils seront détruits à jamais. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Un feu infernal dans lequel les méchants souffriraient pendant le reste de l'éternité n'existe pas. Dieu est bon, miséricordieux, rempli d'amour, mais il reste un Dieu exigeant et juste. La mort est un long et profond sommeil jusqu'à une de ces 3 résurrections. C'est ce que la Bible enseigne et ce que je vous expliquerai la semaine prochaine.